Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons commencer cette émission, comme nous l'avons fait la semaine dernière, par un poème de Jules Supervielle qui s'appelle « Prophétie », la prophétie étant la vocation des poètes, et pour rendre également hommage à notre amie Martine Kaplan, donc, qui a chanté Jules Supervielle dans un magnifique CD qui s'appelle « Plein ciel ». Et je vous invite donc à regarder sur la toile maintenant, sur Internet, les œuvres de Martine Kaplan que vous allez entendre chanter, donc ce magnifique poème de Jules Supervielle, « Prophétie ».
Sera qu'un aveugle l'espace qui tourne, confondant la nuit et le jour. Sous le ciel immense des Andes, elle n'aura plus de montagne, même pas un petit ravin. Plus qu'un balcon et de l'humaine map monde, une tristesse sans plafond. Le feu, l'océan Atlantique, un petit goût salé dans l'air, un poisson volant et magique qui ne saura rien de la mer. D'un coupé de 1905, les quatre roues et chemin, trois jeunes filles de l'époque restées à l'état de vapeur regarderont par la portière, pensant que Paris n'est pas loin, et ne sentiront que l'odeur du ciel qui vous prend la gorge. Que nul ne pourra situer, ni préférer, ni même entendre, sauf Dieu qui lui l'écoutera, disons. Sauf Dieu qui lui l'écoutera, disons. C'est un chardonneret. Que l'espace qui tourne, confondant la nuit et le jour. Un jour la terre ne sera qu'un aveugle espace qui tourne, confondant la nuit et le jour. Confondant la nuit et le jour.
Nous allons continuer avec cette prophétie de Jules Supervielle qui malheureusement prend maintenant toute sa mesure avec ce que l'on appelle les difficultés de l'environnement. Nous allons continuer avec un poète japonais, Nanao Sakaki. Nanao Sakaki, qui publie aux excellentes éditions Poepsi, c'est-à-dire les éditions RS, de la collection Poepsi. Comment vivre sur la planète Terre ? Comment vivre sur la planète Terre ? C'est un peu le sens de la chanson que vous avez écoutée, de ce poème de Jules Supervielle. Alors, qui est ce poète qui a disparu en 2008, ce poète Nanao Sakaki ? Eh bien, c'était un grand marcheur. Il a marché sous tous les cieux, nous dit son éditeur. C'était un poète et un militant contre-culturel pour une société libre de matérialisme. Et il a rencontré en 1947 Gary Snyder et Allen Ginsberg. Ce sont les poètes de la Beat Generation qui étaient alors en voyage au Japon. Et pendant les 6 décennies qui suivirent, il eut l'occasion de se rendre régulièrement aux États-Unis, accueilli par les militants de ce mouvement. Il est considéré donc comme un représentant majeur de la Transnational Beat Generation, et le présent livre « Comment vivre sur la planète Terre » propose une sélection de 40 de ses poèmes qui couvrent une période qui va de 1966 à 2003. Je rappelle qu'il était né en 1923 et qu'il est mort en 2008, Et ces poèmes ont été tirés des dessins recueils qui constituent l'œuvre complète « Comment vivre sur la planète Terre » qui a été publiée en langue anglaise en 2013. Alors, ces poèmes, il ne les avait pas écrits avec sa main ou avec sa tête, mais, disait-il, avec ses pieds. Et donc, ces poèmes étaient venus à l'existence, avaient marché dans l'existence, pour y être laissé comme des traces d'une vie vécue pour vivre. Ça, c'est ce que nous dit son ami Gary Snyder, qu'il a rencontré donc à la fin des années 40. Comment vivre sur la planète Terre, donc aux éditions Poepsi. C'est un livre qui vous coûtera 15 euros, mais c'est un très très beau livre. Comme toujours, c'est la mise en page, et ce sont des livres objets qui sont vraiment tout à fait remarquables. Alors, c'est traduit de l'anglais, et je vais vous lire quelques extraits en version française. Pourquoi escalader une montagne ? Regarde, une montagne là. Je n'escalade pas la montagne. La montagne m'escalade. La montagne est moi-même. Je m'escalade moi-même. Il n'y a ni montagne, ni moi-même. Quelque chose monte et descend dans l'air. Il a écrit ça en janvier 1981. S'il te plaît, chante une chanson. Ou ris, ou crie, ou va-t'en. On trouve donc là. Les poèmes sous forme d'haïku, un poème donc très très bref de Nanao Sakaki. Midi. Une ombre grise traverse le champ de neige. Un nuage blanc flotte dans le ciel bleu. Entre ciel et terre, entre toi et moi, une lumière danse. Danse, avec un A, c'est le verbe danser, pas l'adjectif danse, une lumière danse. Sentier de fleurs en hiver, après 2 jours, lueur rosée le soir. Tu te rappelles soudain l'étoile qui brille le jour et les fleurs qui fleurissent ici en été. Lumière stellaire, lumière de neige, chant de chardon glacé, titubant avec tes lourdes bottes, tu brises les fleurs sèches en petits morceaux de soleil. Ici commencent tes empreintes de pas, les traces d'animaux, les sentiers de fleurs. Au-dessus brille la lumière zodiacale le long de la voie lactée. Sol pour jambes, Sol pour jambe, hache pour main, fleur pour yeux, oiseau pour oreille, champignon pour nez, sourire pour bouche, chant pour poumon, sueur pour peau, vent pour esprit, juste ce qu'il faut. Et puis, voyager léger. Agréable odeur d'oursin et de patates douces, autour du feu de bois flotté. Orageuse nuit de printemps, en mer de Chine orientale, sur la plage d'une petite île, je me retrouve assis dans une grotte avec une centaine de crânes d'humains qui sont morts de variole, il y a 300 ans. Une par une, j'écoute leurs histoires la nuit durant. Comme l'aurore se colore de rose, l'un d'entre eux marmonne « Pour voyager léger, pourquoi ne laisses-tu pas ton crâne ici ?» Voilà. Et la poésie donc de Nanao Sakaki, une poésie qui est assez surprenante, hein, mais bon, qui va dans cette mystique orientale. Infini ciel bleu. Quel beau matin de juin. Je donne le départ à 3 pilotes kamikazes qui se dirigent vers Okinawa. Avec une lourde bombe sous l'aile d'un chasseur d'entraînement, le Shirajiku ou Chrysanthème blanc, sur une base aérienne du sud du Japon en 1945. L'un d'eux, le sergent Goto, me ressemble, avait des cheveux longs et une longue barbe. Peu après le décollage, ils sont assiégés par 10 chasseurs américains, les Grumman Elcott. 3 cercueils ailés en argent, 3 boules de feu éblouissantes, 3 points d'interrogation à longue queue dans l'infini ciel bleu. Miracle. Air, vent, eau, le soleil, tout cela, miracle. Le chant du carouge à épaulettes, mirage. Fleur d'encolie bleue, miracle. Venue de nulle part, allant nulle part, miracle. Nanao Sakaki a écrit ceci en juin 1987 sur le Rio Grande. Les gars, soyez ambitieux. Il écrit ça en 1088, donc toujours à Brunswick Gulf of Maine, c'est au nord de l'Amérique. Terre de feu, pôle sud, Mont Everest, la Lune, Mars, Sirius, 7e ciel, et quoi encore? Et les gars, nettoyez la cuisine d'abord, s'il vous plaît. Voilà, on ramène la vie à sa dimension triviale. Et puis, mangeons les étoiles. Alors, il a écrit ça, non pas aux États-Unis, mais au Japon. Et il a même demandé d'ailleurs en 88. Mangeons les étoiles. Croyez-moi, les enfants, Dieu a fait le ciel pour les avions, les récifs coralliens pour les touristes, les fermes pour l'agrochimie, les rivières pour les barrages, les forêts pour les terrains de golf, les montagnes pour les stations de ski, les animaux sauvages pour les zoos, les camions et les voitures pour les accidents de la circulation, les centrales nucléaires pour la danse des esprits. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Le puits ne s'assèche jamais. Regardez la lueur du soir. des tournesols dans le jardin, des libellules rouges dans l'air, un petit garçon se met à chanter « Mangeons les étoiles, mangeons les étoiles !» Je m'arrêtais là. « Comment vivre sur la planète Terre » de Nanao Sakaki, aux éditions RS, collection Peau et Psy, un petit livre donc qui est remarquable et très agréable. Et puis, comme c'est un petit livre dans une forme avec une enveloppe en carton, etc., ça prend pas de place dans la bibliothèque, mais c'est un livre magnifique d'ailleurs aussi pour offrir. Place maintenant à un poète de chez nous. Il s'agit d'Éric Barbier. Alors, Éric Barbier, il vit dans les Hautes-Pyrénées. Il est venu ici une fois. Je n'ai pas voulu le faire venir pour pas trop faire ce trajet. Mais j'aurais pu, et peut-être le ferai-je une prochaine fois, Éric Barbier. Alors, on avait parlé, ici même, je ne sais pas quand, il y a quelques années, d'un de ses livres qui avait paru aux éditions Le Contentieux, qui était des éditions de Toulouse d'ailleurs, qui s'appelait Géographie fugueuse. Géographie fugueuse. Où il parlait effectivement, alors c'était dans une forme prosaïque, hein, des poèmes en prose. Il nous parlait, par exemple, le chien muet. À juste titre, à bon endroit, Salezan s'en organisait de posséder l'un des plus remarquables jardins publics de tout le pays. Au cœur de ce jardin, un étang, que bien sûr les habitués des lieux avaient coutume de nommer « lac », déployer des eaux calmes et terreuses sur lesquelles prospéraient des palmipèdes harmonieux. Un îlot arboré s'érigeait au centre de ces eaux. Nul ne pouvait y accéder, sinon les jardiniers, qui utilisaient une précaire embarcation pour parfois, dans l'année, venir entretenir cet endroit, en prenant garde de ne pas déranger les habitudes des oiseaux qui y nichaient. Cet homme, alors il donne simplement les initiales, A, E, était possédé par un projet qui le poussait, en de nombreuses nuits, à pénétrer discrètement dans le parc, pendant les heures interdites, pour, en empruntant la barque des jardiniers, aller sur l'îlot, s'employer jusqu'à l'aube. C'est là et seulement là qu'il croyait devoir bâtir la réplique, d'évidence, à bien plus modeste échelle, de l'un des plus prestigieux monuments que nous ne pourrons nommer pour certaines raisons. À eux, crut presque pouvoir parvenir à ses fins, tant il avait mis d'ardeur à cette réalisation. Mais malgré sa discrétion, le secret ne pouvait en rester préservé. Un tel édifice finirait par s'imposer au regard. D'abord, s'inquiétèrent les seuls fidèles du jardin. On parla, on s'interrogea avant que les rumeurs ne parcourent toute la ville, et certains se demandèrent si ce n'était pas là le résultat d'une commande publique adressée à un artiste, peut-être local, mais peut-être pas, dont l'œuvre avait été oubliée ici car on ne lui trouvait plus destination depuis certains changements. Non, bien sûr, rien n'était vrai là-dedans. Une surveillance nocturne fut organisée, et on ne tarda pas à surprendre A. E., qui venait parachever les derniers détails de sa reproduction. D'ailleurs, l'embarcation ayant été piégée, celle-ci coula presque exactement à mi-parcours dans cette si courte traversée. Les palmipèdes assoupis sur les berges ne purent que se plaindre d'une telle agitation. A. E. fut repêché, séché, secoué, avant d'être conduit à la cabane des gardes, où l'on procéda à son interrogatoire. Il était connu, et sa famille l'était aussi, même s'il n'avait maintenu aucune relation avec les siens. nulle procédure ne fut engagée. Mais on ne tarda pas à l'éloigner vers des établissements. À Salezan, personne ne s'attarda à évoquer ces circonstances. Voilà donc le ton de Éric Barbier dans ses fameuses géographies fugueuses parues aux éditions Le Contentieux, livre qui vous coûtera 10 euros. Et la vérité de la géographie pourrait-elle se révéler redondante? Non. De même, le rêve sait varier ses refrains. À vrai dire, il sera peu question de telle manière dans ces métamorphoses, dont de l'inachèvement qui constitue donc ce livre, ou alors de quelques-uns de leurs usages modernes dans une traduction de l'inquiète perpétuité. Mais en versant une rasade de rhum dans un verre et quelques gouttes échappées forment sur le bois de la table, peu de nappes seront en usage ici, un dessin, une carte, dont certains pourront reconnaître les contrées ainsi rapportées. Et de ces songes qui ne voudront plus porter le nom de rêve, les textes qui sont réunis dans ce livre Géographie fugueuse voudraient établir une cartographie qui est une véritable science, mais une science de la perdition. Donc Géographie fugueuse que je vous recommande, de Éric Barbier. Mais plus récemment, Éric Barbier a fait paraître aux éditions Encre Vive, qui constitue d'ailleurs le numéro 538 d'Encrevue. Il a paru en août 2024. Et je tiens maintenant quand même, je crois l'avoir signalé, mais je veux aujourd'hui en parler un peu plus profondément. Alors, il fait paraître là Éric Barbier, à Encrevive, Ombres abruptes, avec une très belle photographie de ces Pyrénées qu'il adore. Hein. Et il dit, ces ombres abruptes, dans le tremblement des temps, dans le tremblement des temps. Éric Barbier, donc, je vous disais, il publie, ça fait longtemps qu'il publie de la poésie, avant les années 2000, hein, 1998 très exactement, et de la poésie, et de brèves proses comme celle des géographies fugueuses. Alors, ombre abrupte, comme le son, nous pourrions le croire, celle de certaines montagnes et d'autres qui nous précèdent parfois. Les ombres non du temps, mais de toutes ces permanences jamais figées, les ombres des lieux ou œuvres des lumières de nombreuses origines. Voilà, donc Éric Barbier. Reprendre l'indispensable ponctuation du jour, sentier où chaque pas dérange le ciel, des pierres colériques en déchirent l'ébauche, existence, chronologie, géographie, aucun épisode ne suffira à composer d'heureuses incertitudes. Faut-il rappeler le corps douloureux, la douceur venteuse d'une position indécise, l'institution toujours renouvelée des confusions rocheuses, quiétude ancienne, heure distraite, topographie sans recours, biographie indifférente. Chaque mot, même celui non encore prononcé, se fait pierre oubliée dans la poche du vêtement. De circonstance, pierre qui ne deviendra jamais outil, ni même galet roulé par les eaux encore écumeuses, pierre pour mesurer le temps ou son absence. Quelques mètres d'écart suffisent pour que tout silence devienne unique. Traverser les eaux exilées du songe, dépasser un cairn d'eau brisée, représentation emperlée, où se taisent les jours. Éric Barbier, Ombres abruptes. Une poésie de célébration de ce grand montagnard. L'entretien infini renverse le crépuscule. Se reposer dans un nom éloigné, tout retrouver, ne rien reconnaître, tout deviner, ne rien apprendre, rester à vue, la main, elle, voudrait reprendre le témoignage de la jouissance stupéfaite qui épouse la rousseur de la roche. Le vent, après avoir confié 112 histoires à l'assemblée des carex disperses, l'apprentissage résigné de l'homme. Voilà. Donc il y a comme un écrasement dans ces poèmes, écrasement de l'homme par cette nature, et cette nature qui trouve sa magnificence évidemment dans ces hautes montagnes. Qui sont les paysages privilégiés, bien sûr, de Éric Barbier. Ciel terreux, roche nuageuse, de ce long tumulte, nulle citation ne pourra être transcrise. Sécheresse minérale, prononcée par une langue sans vertige, recopier différents regards pour recevoir l'entente indécise du jour, sa braise s'applique. Sur la poitrine, une autre coutume de l'isolement. La pierre qui là se fait chant, les membres la nécessité du retour, cette plus certaine défaite, aucune ombre ne témoignera de cette beauté pour disparaître dans son enseignement. Éric Barbier, ombres abruptes. Brise qui n'a su devenir, le lendemain de vent véritable, ne reconnaître aucun lieu. Chacun de ceux qui en gardent le partage leur donne un nom différent. Peau insurgée d'absence, marée d'ortie, mer intérieure, le souvenir des égarements dirige la fidélité de telle navigation. Chacun de ceux qui ici viennent me confie un nom différent. Belle épiphanie, rive condamnée, pierreuse nudité, le corps reste un. Assemblée de vaines répliques, ne rien écouter, tout entendre, ne rien distinguer de ce qui serait caché dans les buissons de genévriers. Insurrection aux voix éteintes. Là, patientent les rêves. De la pierre, fière d'un passé houleux, le moindre souffle disperse une poussière de fleurs, corps, présence, importune, ancien retour, apaisement, ombre, pointilleuse des pins. Chaque poème est en fait un tableau. Et on sait que par ailleurs, Éric Barbier est aussi photographe. Et ses poèmes sont des espèces de photographies, à la fois de paysages, mais une espèce de photographies aussi qui sont des photographies métaphysiques du paysage. Par le mystère ou le miracle, comme on voudra, de la langue. J'ai retiré mes yeux de la nuit qui s'avançait. Peut-être, s'écrit, l'occupait-elle, splendeur distante, lumière d'après les orages, telle la pierre lancée dans l'accalmie du ruisseau, où la graine échappée du fruit, goûtée lors d'un songe tumultueux, jetant une présence parmi l'alphabet en friche de la commune obscurité. Alors l'obscurité, l'ombre, évidemment, est ce qui revient incessamment dans tous ces poèmes. Et on peut penser aussi aux peintres, vous savez, ces peintres de la pénombre, ces peintres qui jouent avec avec l'ombre et pour lequel l'ombre, effectivement, recèle cette part de lumière. Soulage, d'ailleurs, en est la quintessence de cela. Quel aurait été le premier mot, antériorité multiple, formulé par la respiration de cette pierre, celle en qui s'achèvent les rayons d'un soleil, pour d'autres promis, d'un savoir dénué de connaissances, assemblé des lettres pour former le verbe, qui gardera pour seul usage l'apaisement d'une longue veille. Et pour finir, j'espère celle que je pourrais prier de tarder, à m'oublier. Tandis que s'ouvrent les roses hivernales éclaircies entre deux permanences, le gel illumine d'anciennes doctrines. La pluie, ce jour, conserve des pudeurs de lèvres fendues par une seule goutte, écharde de vertus égarées dans la raison d'une aubépine, pour en divertir la servitude. Éric Barbier, Ombres abruptes, qui constitue le 538e numéro de Encre vive. Donc, une poésie métaphysique de la contemplation. Alors, vous pouvez vous procurer ce numéro d'Encre vive, qui est le numéro qui est consacré exclusivement à ce recueil, auprès de Éric Chassefière, 232, avenue du Maréchal Juin, 3410 à Frontignan, ou écrire à Encre, au pluriel et en minuscule, un point, Encre, pluriel, point, vive, avec toujours un S, à vive, 34, vive 34, @gmail.com. Vous trouverez ces références également sur notre site qui prolonge cette émission, dans laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions, le site Les Poètes, tout attaché et sans accent, lespoètes.site. Lespoètes.site. Donc, notre ami Claude Bretin est le webmaster fidèle. Nous allons terminer cette émission avec un poète que j'ai cité la semaine dernière. Alors là, il s'agit d'un poète et d'un auteur très universellement connu. Il s'agit du poète et romancier Michael Ondaatje. Donc, avec son recueil de poèmes, L'année des dernières fois, qui est paru aux éditions de l'Olivier. Donc, c'est une édition assez récente, les éditions de l'Olivier. Et ceci vous coûtera 20,50 €. Alors, c'est un Sri Lankais, Michael Ondaatje, puisqu'il est né à Ceylan, donc Sri Lanka. Et il vit maintenant au Canada. Et il est né en 43. Donc, il est connu pour ses romans, dont Le Patient anglais, qui a été adapté au cinéma, qui a eu ce succès mondial, et qui lui a valu d'ailleurs un prix en 1992, le Booker Prize, et puis le Golden Booker Prize en 2018. Vous voyez, c'est très récent. Et donc, Michael Ondaatje a également reçu le prix Médicis, étranger, en 2000, pour Le Fantôme d'Anil, et tous ces livres sont publiés, comme celui dont je vais vous donner lecture de quelques extraits, L'année des dernières fois, sont publiés, donc, disais-je, aux éditions de l'Olivier. Alors, Michael Ondaatje, Écluse. Il lit les vers qu'il aime, les glisse dans une poche, souhaite mourir dans ses vêtements remplis de strophes déchirées et des numéros de téléphone de ses enfants dans des villes lointaines. Comme si c'était tout ce qu'il nous fallait. Non pas le chien, ni le bol en argent, ni se vanter de sa carrière ou de ses possessions. À moins qu'il puisse servir un bol pour mendier, un hurlement pour flairer un ami, alors que ces vers déchirés nous rappellent comment nous souvenir jusqu'à atteindre cet horizon et descendre ou monter comme un canoë dans une écluse afin d'explorer l'autre versant de la rivière, où l'on pourrait voir ses amis, aussi rendus autres que nous, par cette altitude d'herbe fraîche de l'été, l'odeur de la vue, l'eau sombre, le tableau d'août. Comme j'ai aimé cette écluse quand je l'ai vue, tant d'été auparavant, quand nous avons débouché d'un orage dans sa lumière du soir et avons offert du vin à un inconnu dans une timbale en fer blanc. Déjà, je désirais me glisser dans le rectangle sombre et ruisselant et nager, pieds nus, vers d'autres profondeurs où l'on ne verrait rien d'une histoire à venir. Michael Ondaatje, donc, qui parle de l'écluse. Bon, ça nous interpelle à nous, hein, puisque nous vivons près du canal du Midi. Et que, bien sûr, le canal du Midi est parsemé d'écluses. En exergue de ce livre, Michael Ondaatje a mis une citation de Marguerite Duras. « Écrire, dit-elle, Marguerite Duras, ce n'est pas raconter des histoires, c'est raconter tout à la fois. » Et je me dis qu'en lisant Michael Ondaatje, que j'ai rapproché il y a quelque temps de Abdelatif Lahbi, eh bien, oui, leurs poèmes ne racontent pas des histoires, mais leurs poèmes racontent tout à la fois. Michael Ondaatje, définition. Tout l'après-midi, je me suis promené dans les 1300 pages, dépourvues d'intrigues, d'un dictionnaire de sanskrit avec ses verbes pour les saintes obsessions, le mot pour une alcôve, des laveurs de pièces de monnaie dont les doigts luisent la nuit entière de plomb noir, de grains d'argent, là, les voyelles radicales prennent dans les hautes altitudes un accent, de même que les dictionnaires parlent par-dessus les montagnes. Un seul mot pour décrire la lumière de ce village lointain qui se reflète dans un nuage, ou le visage d'un amour illuminé par le clair de lune sur une scène. Les paysages encourent le dialecte. Dans les endroits lointains, les voyageurs savent qu'un vague geste peut signifier « désir » ou « mépris », tout comme un lambeau de phrase qu'on jette cache des charmes au sein de sa grand-mère. Le gourou, celui qui a le toucher léger, tient ses origines de cette voyelle brève, seule devant une unique consonne, où que l'on se tourne. Les définitions ouvrent une porte. L'odeur nommée avait précision d'un homme qui vole les cœurs, un mot pour la plus extrême complexité durant une pièce utilisée aussi pour la théâtralisation. Les attributs propres au personnage se rattachent aux professions. Un ouvrier métallurgiste, le marchand de la rivière, celui qui reçoit les déclarations sous serment, celui qui recense les oiseaux et qui perpétue l'art médiéval du siffleur. ceux qui portent les abeilles sur le bras comme une flamme noire. Le reclus taciturne qui fut autrefois l'auteur d'une prière. Ce mot pour une pièce d'eau devant un temple, ou en ça. La forme d'une omoplate, comme dans le coin d'une cour sacrée. Les phrases anciennes donnent les clés de l'évasion. Cette épithète qualifiant ce qui retourne sans cesse aux relations rompues, envoie voguer loin de la confusion, on restera seulement comme souvenir. C'est à ce point-là que j'étais perdu, mon amour, dans un amour si anesthésiant que je possédais une splendeur virginale, n'ayant d'autres besoins ou d'autres souhaits. Qu'y avait-il avant la chaleur de ce mot pour dire ton omoplate, ou ce temps avant que nous ne soyons libérés du désir? Très belle image de l'amour, hein, l'amour libéré du plaisir, merveilleux. Michael Ondaatje. Vagabond. Parlons de nos énormes défauts tels que nous les décrivent les autres. Comptable, épouse avant de nous quitter. De notre manière de nous abuser ou d'abuser même nos chiens. En ignorant leurs appels inquiets à la promenade. Leurs aboiements baignés de larmes. Même s'ils reposaient souvent sur notre poitrine et émettaient des bruits pareils à ceux de vieux bateaux. Car il y a, et toujours, un étroit tunnel pour s'évader et gagner le pardon. Comme dans tout film ou roman, on s'accroche au droit du personnage et à l'endroit d'où l'on vient. On a peu à quitter quand on n'a que 15 ans, nous dit-on. Avoir survécu pendant la guerre, la famille de mon ami a été nourrie et sauvée par un déserteur allemand qui parcourait l'Europe comme Ulysse et les a même accompagnés dans leur fuite, feignant d'être muet, tandis qu'il lui apprenait le polonais. Une généalogie diluée lui permettait de franchir frontières et zones de guerre avec eux, de se frayer un passage au milieu de diverses armées. Il savait déjà que ce n'est pas la loyauté qui fait tourner les rouages du monde. Sans patrie, il a été un temps un père pour leurs enfants. Et plus tard, plus d'une fois, en quête d'un passeport, il s'est marié plus d'une fois, avec des dialectes et des verbes accents des ports. Il pouvait chanter le départ en 4 langues. À 15 ans, il était toujours sans attache, attendant que les années le rattrapent. Qui était-il devenu? Il avait dormi à côté d'Isaïe, échappé au jugement, continué sans se repentir. Il ne trouvait de réconfort que quand pour le chien. Il devenait difficile de savoir si les accusations signifiaient damnation ou contentement. Michael Ondaatje, avec une référence, bien sûr, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, à Rimbaud. Ensuite, titre du poème. Une étrange pensée au réveil à 7 heures du matin. Celle d'effacer cette vie et de désirer ce que j'aurais pu savoir à travers les photos de toi avant qu'on se rencontre. Quand j'aurais pu t'entourer d'un cercle à distance respectueuse, ne connaissant que l'existence de ton mari, mais rien des règles que tu t'appliquais à toi-même, rien de la manière dont tu élevais tes enfants, n'était un conflit permanent avec les urbanistes de Kélua. Ou même avant, pendant ce lent glissement des plaques tectoniques à travers le Pacifique, vers l'avenir où nous étions pas connus, un bal de lycée, une fête alcoolisée, ou avec un garçon invité à écouter ton cœur battre sous un kimono. Ensuite, toute cette histoire jusqu'à ce qu'on se rencontre, dans un chaos furieux, lorsque j'ai aimé d'abord ton visage et ensuite aimé comment tu es devenu ce que tu étais, combien de temps toutes ces possibilités ont-elles dormi au cours des années avant que ceci émerge. Et puis, nous allons terminer sur un extrait d'un petit recueil donc dans ce livre qui est consacré à une station de radio de nuit, à Koprivtsiva, excusez ma prononciation. 1. Franchir le 1000 de largeur et les 10 000 de profondeur de la faille de San Andreas et 3 fuseaux horaires pour te rejoindre. Être en ta compagnie dans ce qui évoque un musée de la nuit. Nous sommes sous un firmament médiéval de nuages talés, de tonnerres, de chaos anciens. Un ray de lumière plane qui articule chaque noble étoile et j'ai envie de poser ma tête dure, pleine, occupée de pensées contre ton cou nu et de tout y respirer, un soupçon de désir, surprendre le petit cri de surprise. Quand tu es entouré des ornements du vieux monde, il te faut entendre un courant de vie. 2. Donc, une station de radio de nuit à Koprivtsiva. La loi ottomane interdisait la construction d'églises plus hautes qu'un cheval et son cavalier. Si bien que l'on creusait de profondes fosses dans le sol pour créer de nouveaux monastères. La violation de loi ainsi rendue invisible, comme elle le serait, en cette nuit sans nom, où tu l'as caressée, mais où elle n'a pas voulu te rendre ta caresse. 3. Les cierges dans le soleil de cette église bulgare vacille pour imiter une danse villageoise. Mais au-dessus, sur une sombre peinture murable, le diable pisse dans un bol, des sorcières brassent des onguents. Il y avait les 38 martyrs de Plovdiv et les 19 pécheresses dont le sort demeure inconnu. Tout comme dans les tableaux après tableaux, apparemment jamais achevés de la scène, il n'y a ni déloyauté ni trahison, rien qu'une table chargée d'ail, d'oignons, de pain du pays, d'un calmar, d'un poisson. La plupart des histoires demeurent inconclues, inconnues, telle la violation d'une loi. Le secret de l'œil de verre d'un poète célèbre révélé seulement quand on l'a trouvé à côté de son cadavre dans un charnier près de Sofia. Ainsi s'achève notre émission. Nous rappelons les titres des recueils cités. Éric Barbier, Géographie fugueuse aux éditions Le Contentieux. Éric Barbier, Ombre abrupte, 538e numéro d'encre vive, qui vous coûtera 6,60€, ou un abonnement encre vive 40€. Et Michael Ondaadje, L'année des dernières fois, aux éditions de l'Olivier, 20,50€. Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie, et nous vous disons la semaine prochaine, à 17h.